informations. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, ce sera à 17h heure de Washington, 21h temps universel. On se dit à tout de suite. Bye bye.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir. Et avec moi dans le studio, Djeneba Cissé, fondatrice de l'association de femmes entrepreneurs à Ségou, au Mali, Sewa Djama. Merci beaucoup Djeneba, c'est un plaisir de vous avoir avec nous.
Merci Nathalie.
Alors, vous avez travaillé pour la Banque de développement du Mali. Vous avez créé donc Sewa Djama en 2001. Dites-moi si je me trompe dans les dates. Après avoir bénéficié d'une formation en 1997 sur les techniques de transformation, vous avez travaillé pour la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à Ségou, donc via le ministère du même nom, sur un projet de formation parrainé par l'ONUDI. Vous avez notamment été formatrice, coordonnatrice. Vous avez formé donc des femmes avec lesquelles vous avez ensuite constitué l'association. Et ces dames sont spécialisées dans la production de fonio pré-cuit, la transformation de beurre de karité. Est-ce que vous faites toujours du miel là ?
Tout à fait.
D'accord, le miel. Mm-hmm. Et vous avez aussi créé votre propre entreprise, CECA. Donc ces femmes, le profil de ces femmes, qui sont-elles et combien sont-elles ?
La majeure partie ne sont pas allées à l'école. D'autres sont partis, donc d'autres sont récalés. Donc, comme on a eu la formation de la transformation de nos produits locaux par un grand projet qui était domicilié au ministère de la promotion de la femme dans les temps, donc c'est à la fin de ce programme que ces femmes-là ont jugé assez conforme une association pour pouvoir faire face à notre indépendance économique.
Vous êtes combien aujourd'hui ?
Donc, en 2001, on était au nombre de 200 personnes.
Oula !
Voilà. Donc, maintenant, il y a eu des jeunes filles qui se sont mariées, qui sont parties. Il y a eu des fonctionnaires qui étaient parmi nous qui sont partis. Il y a eu d'autres qui sont orientés à d'autres régions de la République du Mali. Maintenant, nous sommes 30 femmes actives au niveau de l'association Sewa Djama qui pratique la transformation de nos produits locaux. Alors, dont je suis leur présidente.
Alors, merci. Vous-même, vous êtes allée en Israël pour une formation.
C'était l'entrepreneuriat agricole. J'ai eu cette chance d'être formée en Israël, dans les kibbutz.
Dans la presse.
Le concours Miss America ne jugera plus sur l'apparence physique, selon sa présidente Gretchen Carlson, lauréate 1989, pour qui l'événement n'est désormais plus un concours de beauté, mais une compétition. La présentation en maillot est remplacée par un échange avec le jury et le défilé en robe du soir devient une présentation des candidates dans la tenue de leur choix. Les participantes évoqueront les projets sociaux dans lesquels elles souhaiteraient se lancer. La désignation de Madame Carlson début 2018 faisait suite à la démission forcée du PDG de l'organisation Miss America, Sam Haskell. Une enquête du Huffington Post avait révélé que le dirigeant avait envoyé des courriers électroniques visant Mallory Hagan, lauréate 2013, dans lesquels il se moquait de sa prise de poids et la traitait de femme facile. Et l'organisation attribue plusieurs bourses scolaires chaque année depuis 1921. Djeneba Cissé, on revient avec vous. Vous avez commencé dans votre maison. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un siège social et des points de vente ?
Tout à fait. Pour pouvoir faire convaincre les gens, donc il fallait qu'on leur donne des échantillons pour pouvoir essayer. un moment même, quand nous transformons nos produits, nous faisons des porte-en-porte pour faire connaître les produits. Les gens me demandaient, lorsque on a ouvert notre kiosque pour pouvoir vendre nos produits, il y a un client qui a passé, je me rappelle, et ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Il a pris un de mes produits, il m'a dit, madame, est-ce que ce produit-là est bon? Transformé ici à Ségou, est-ce que c'est bon? Donc je lui ai dit, monsieur, il faut prendre, je te donne ça en cadeau. Mm-hmm. Mais lui, là, il a testé le produit, il a été le bouche à oreille de l'entreprise. Donc je suis fière de ce que je fais aujourd'hui et je suis très contente du rendement que mm-hmm. j'apporte à ma population.
Et donc vous avez procédé comme ça avec plusieurs personnes?
Avec plusieurs personnes, bouche à oreille. Et mm-hmm. maintenant, on s'impose.
Vous avez quelques produits là. Ça, c'est du beurre de karité.
Du beurre de karité.
Là-bas, vous avez
c'est du beurre, c'est de, du karité, beurre de karité aussi, un échantillon.
Et ça, qu'est-ce que c'est
alors? Ça, c'est le moringa, le poudre de moringa. Et la graine de moringa.
La graine de moringa. Oui. Ça sert à quoi ça alors? Qu'est-ce qu'on fait avec la graine de moringa?
Bon, le moringa est un produit qui est très naturel, très pur. Le moringa a beaucoup de vertus. C'est l'arbre de vie. C'est un complément alimentaire. Mm-hmm. Le moringa, tout ce que j'ai dit aux gens, toutes les vertus sont ici.
Mais la feuille en particulier, vous la conseillez pourquoi par exemple?
Donc la feuille, nous la conseillons à tous ceux qui ont des problèmes de brûlure d'estomac, d'infection respiratoire, tous les problèmes intestinaux.
Et la graine?
Bon, la graine, c'est pour les muscles. Le cholestérol, l'hypertension, le diabète, ça calme tout ça là. Oui.
Et en plus, ce qui est intéressant avec cet arbre, c'est qu'il a une croissance très rapide.
Tout à fait.
Et on le retrouve un petit peu partout. Moi, j'en ai vu au Mali, en Mauritanie. Oui. Je crois que j'en ai même vu en Namibie.
Ah bon?
Il me semble.
Okay.
Oui.
Le moringa est un arbre très très bon.
Parole de femme.
L'utilisation polyvalente d'huile de noix de coco est de plus en plus sollicitée en Afrique. Mmh. Elle offre ainsi des opportunités pour la création d'emplois et d'entreprises, notamment au Nigeria, mmh. où notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba, a rencontré des femmes qui se sont lancées dans cette activité.
Oyin Kansola, 30 ans, a abandonné son travail de bureau auprès du gouvernement pour créer une entreprise produisant de l'huile de noix de coco et fabriquant d'autres produits biologiques avec l'huile de coco.
Coconut oil. Produire de l'huile de noix de coco, vous pouvez dire que c'est simple et c'est aussi à la fois un peu difficile. Mais si c'est quelque chose que vous aimez faire, vous n'allez pas sentir que c'est difficile.
Mais le chemin parcouru pour atteindre cet objectif et commencer à produire l'huile de noix de coco n'a pas été facile, car Oyin Kansola a finalement vendu sa bac de mariage en raison du manque de fonds pour acheter deux sacs de noix de coco à 20 000 naira pour ses premiers pas.
J'étais fatiguée de demander aux gens de m'aider et je me suis dit, donc je vais investir moi-même. C'est une bague en or, je pourrais toujours la racheter. C'est ainsi que j'ai décidé de vendre ça et d'investir dans mon projet.
À moins de 12 mois d'entrepreneuriat, elle a commencé à former des jeunes diplômés. Après un mois et demi de formation, Amini Adoga est à ce jour propriétaire d'une petite entreprise de production de savon noir africain.
L'une des choses principales que j'ai apprises auprès d'elle, c'était comment travailler avec le savon noir africain pour faire des shampoings, du savon pour se laver et même enlever les taches faciales. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le savon noir africain. Et ensuite, comment tu peux faire pour avoir une peau parfaite avec l'huile de noix de coco? Pas celle de fabrication étrangère, mais l'huile de noix de coco produite au Nigeria.
Beaucoup de Nigériens viennent ici pour acheter l'huile de noix de coco produite manuellement par Oyin Kansola. C'est le cas de Chidire Chidima. Mais après avoir découvert son importance, elle a aussi décidé de s'impliquer dans le business.
J'avais vraiment une tache sur mon visage et c'était la réaction à la crème précédente que j'utilisais. Mais lorsque je suis allée la voir et en utilisant l'huile de noix de coco, la tache sur mon visage a disparu.
Les fabricants comme Oyin Kansola ont remplacé les autres huiles par l'huile de noix de coco dans les produits emballés et de nombreux ménages l'utilisent aussi pour cuisiner. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Je ne sais pas si c'est... Vous êtes ici à Washington, notamment, mm-hmm. Pour visiter, participer à certaines foires. Donc, au niveau international, vous le faites également. Mm-hmm. Mais parlez-nous surtout des foires qu'il y a au Mali, je ne sais pas, à Bamako, même à Ségou.
Tout à fait.
Est-ce que vous allez toutes là-bas pour vendre les produits?
Oui. Plus précisément à Ségou, tous les ans, au mois de janvier à février, il y a les festivals sur le Niger. Donc, le festival a été très, très, très bénéfique pour tous nous, les transformateurs. Donc ça nous donne permet d'être, d'exposer nos produits et faire connaître nos produits. Mm-hmm. Le festival a beaucoup contribué à notre promotion. Il y a le FEBAC aussi dans la capitale du Mali tous les deux ans.
Est-ce que ça apporte beaucoup de clients ou d'investisseurs?
Ah oui, ça marche bien. C'est la vitrine où on peut s'exposer, nous faire connaître et faire connaître nos produits localement.
Quel type de réputation vous avez, si vous pouviez qualifier cela? Votre organisation, votre marque, mm-hmm. les gens, qu'est-ce qu'ils disent de vous?
Les gens nous disent leur point de vue sur nos produits. Donc, ils savent la qualité. J'ai des clients fidèles sur le plan local et sur le plan national aussi. Les alimentations, bon, les hôtels, les restaurants aussi. Ils commandent régulièrement nos produits. Si je ne pouvais.
Une enseignante camerounaise, inquiète des absences répétées des filles à l'école à cause de leurs règles, s'est lancée dans la fabrication de serviettes hygiéniques pour permettre aux élèves issus de communautés à faible revenu de ne pas manquer les cours. Salwa Jafari nous en dit plus sur l'entreprise de Feka Parchibel.
Selon l'UNICEF, une jeune fille africaine sur 10 manque l'école pendant ses règles. Feka Parchibel a pris ce problème à bras-le-corps. Si les serviettes hygiéniques dans le commerce sont trop chères, périssables, eh bien, il fallait en fabriquer de plus durables, plus accessibles. Dans ce petit atelier, Feka utilise du coton, de la flanelle et autres tissus pour confectionner des serviettes réutilisables grâce à un partenariat avec Rose Academies, une ONG basée aux États-Unis. Un savoir-faire qu'elle aurait bien aimé avoir quand elle était plus jeune.
Quand c'est arrivé, ils m'ont juste dit, d'accord, tu es une femme. Et on m'a donné un paquet de serviettes et c'est tout. Alors j'ai fini le paquet, j'ai dû utiliser d'autres choses. J'ai dû utiliser du papier toilette et ce n'était pas facile.
Aujourd'hui, Feka et son équipe se rendent à Tiko, une petite ville dans le sud-ouest du Cameroun.
Les challenges sont énormes.
Les besoins sont vraiment immenses. Ensuite, accéder à certaines de ces communautés n'est pas facile. C'est vraiment risqué et difficile parce que nous devons utiliser les motos, utiliser les transports en commun.
Les serviettes lavables constituent une alternative pour les jeunes filles de familles à faible revenu. Un paquet de serviettes hygiéniques jetables coûte environ 1 dollar américain. De plus, parler de menstruation est encore tabou. En Afrique, beaucoup de jeunes filles sont souvent contraintes à utiliser des pièces de tissu non hygiéniques pendant leurs règles.
Quand j'ai pris une serviette hygiénique de tante Parchibel, la serviette m'a beaucoup aidée. Du matin au soir, je ne la changeais pas, aucune fuite. Je peux jouer, je peux sortir.
Grâce à ces serviettes, ces jeunes filles peuvent aller à l'école tous les jours et se concentrer sur leurs études. Chaque année supplémentaire d'études secondaires entraîne une augmentation de 15 à 25% du revenu potentiel d'une jeune fille.
Et oui, et si la jeunesse pouvait?
Vous écoutez Le Monde au féminin avec Djenéba Cissé, qui est chef d'entreprise agricole au Mali. Est-ce que vous faites des commandes groupées ou est-ce que c'est chacun sa commande?
Et nous transformons ensemble. Quand nous transformons le beurre de karité, le produit fini est là. Nous les ramassons à peu près 3 tonnes, nous les commercialisons sur le marché. Donc les 3 tonnes là vont être vendues. Donc, une fois qu'on récolte cette ressource-là, on amène ça à la caisse. Les un tiers sont gardés dans la caisse.
Okay.
Les un tiers, c'est pour acheter un nouveau stock d'amandes de karité. Et la dernière tiers-là est divisée entre tous les membres. Donc, vous savez, Nathalie, la transformation du beurre de karité, ça nous occupe pas pendant toute l'année. Le circuit de la transformation du beurre de karité, ça commence au mois de juin. Donc, juin, juillet, août, septembre. Donc, jusqu'en décembre, c'est la production qui continue. Donc janvier, février, mars, c'est la commercialisation qui commence. À partir du mois de mars, on ne peut pas toucher à l'huile de karité parce qu'il fait chaud chez nous. Donc à ce moment-là, chaque mercredi, nous nous regroupons. On a une petite caisse aussi. Chaque femme amène 250 francs. Les 250 francs, c'est à capital. Les 50 francs, c'est pour l'association. Donc nous cotisons et nous montons cette somme-là dans notre caisse. Toutes les 4 semaines, donc on donne ça aux gens à crédit, à 5%.
D'accord.
Pour pouvoir faire votre petit commerce à côté. Oui. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'association. Donc, toutes les semaines, toutes les mardis, à partir de 15h, nous nous retrouvons au siège. Tout le monde amène ses 300 francs. Les 250 francs sont gardés dans la caisse. Les 50 francs, c'est pour l'association. À la fin de l'année, les 12 mois, donc les 250 francs que tout le monde a cotisé, on vous restitue vos 250 francs.
Ça marche bien, c'est lucratif.
Voilà, ça marche bien, ça intéresse tout le monde. Chaque 4 semaines, tu as un petit prêt, tu peux faire ton petit commerce à côté.
Et pour l'acquisition de matériel, parce que moi je suis tombée sur des informations qui dataient je crois 2008 où l'on parlait de projets concernant l'acquisition de matériel notamment d'un moulin pour battre le fonio et de matériel plus moderne pour la production des jus de fruits. Vous faites des jus de fruits aussi?
Non.
Mais vous n'en avez pas fait dans le passé?
Dans le passé je l'ai fait, j'ai eu la chance d'avoir la transformation de tous les produits locaux du Mali. Parce que je suis parmi les toutes premières femmes qui ont eu cette compétence-là. Que ça soit des fruits et légumes, que ça soit des céréales, que ça soit des légumineuses, que ce soit des produits de cueillette.
Vous l'avez le moulin ou pas?
Si.
Pour battre le fonium.
Oui, j'ai une décortiqueuse et blanchisseuse de fonium. C'est pour l'entreprise familiale. Je suis parmi les toutes premières aussi qui a eu une décortiqueuse et blanchisseuse de fonium. Grâce à un projet qui était là-bas, qui s'appelle le PCDA.
Donc, dans les 30 femmes que vous êtes la seule à l'avoir ou d'autres?
Je suis la seule à l'avoir. Parce que les 30 femmes, c'est leur petit commerce qui les intéresse et la transformation du beurre de karité.
Vous êtes intéressée beaucoup par l'arbre moringa. Mm-hmm. Et vous avez des champs avec ces arbres-là?
Si, Nathalie. J'ai un champ qui est clôturé par l'arbre du moringa. C'est pas un problème chez nous en Afrique. Il y a beaucoup de terre là-bas.
Mais il n'est pas beaucoup exploité, c'est ça?
Il n'est pas beaucoup parce que les gens ne connaissent pas leurs vertus. C'est pourquoi j'aurais voulu avoir un site internet pour pouvoir parler bien davantage.
Oui,
voilà. Donc, ça y est dans mon programme.
Entre parenthèses.
Stylistes et commerçants ont célébré en juin dernier la première édition du Salon du Pagne Africain à Brazzaville, visant à promouvoir l'entrepreneuriat dans le secteur du textile. Notre correspondant Arsène Séverin était de la partie.
Pour la styliste commerçante brazzavilloise Solange, le pagne est une signature de la femme africaine.
On le porte, on peut aussi porter un enfant avec. On s'en sert comme drap pour se couvrir, pour mettre sur le matelas. C'est très symbolique en tout cas. Pendant le mariage ici au Congo, on demande toujours les pagnes. Et souvent, les femmes aussi sont habillées en pagne pour leur dot, le mariage traditionnel. Vraiment, le pagne, c'est le chouchou de la femme africaine.
Venue de Bamako, Kadidia Traoré a partagé l'expérience du bassin malien.
J'ai des jolis modèles, j'ai des robes, j'ai des ensembles, les ensembles qu'on peut porter la nuit pour faire les soirées. C'est la première fois qu'on valorise le pagne africain à Brazzaville. Je trouve que c'est vraiment important. Si ça peut continuer au fur et à mesure, c'est bien.
Paulette Sarah Akpo, ivoirienne, est une habituée des marchés africains du pagne. À Abidjan ou à Cotonou, elle propose ses propres créations du pagne africain.
En fait, c'est la soie, mais on a imprimé les motifs africains là-dedans. Les motifs du pagne, du wax, c'est nous-mêmes qui le faisons. On les a en stretch, en soie et puis en plissé.
Loin d'un simple vêtement, une artisane basée à Pointe-Noire utilise avec beaucoup de finesse le pagne comme accessoire dans l'ameublement des maisons.
En fait, moi, ce qui m'attire, c'est la couleur du pagne, la matière. Moi, je voudrais que le pagne soit représenté différemment que sur un vêtement. Donc, le fait en meuble, en tabouret, en pochette, parce que c'est une originalité, une créativité. Ils sont très intéressés. Je suis basée à Pointe-Noire. J'ai mes artisans, menuiseries, soudeurs, couturiers et potiers.
Organisée par Pamela Okemba, la première édition du Salon du Pagne à Brazzaville a visé la revalorisation du pagne africain. La femme s'identifie par le port de son pagne, a-t-elle conclu. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Voilà, donc encore une initiative intéressante, le salon du pagne africain. Donc c'est une première en fait pour vraiment valoriser le tissu purement africain. Vous avez parlé tout à l'heure des questions de finances. Est-ce que vous avez prévu aussi un fonds social, par exemple si l'une d'entre vous est malade ou un problème
tout
ou
à
autre?
Fait. Il y a un fonds social, vous allez l'emprunter, donc vous allez le rembourser tel qu'il est. D'accord. Il n'y a pas d'intérêt là-dessus. Dans notre caisse, ça aussi, ça s'est fait. Mais quand vous prenez du prêt, pour deux mois, c'est 5% que vous allez, vous prenez 100 000 francs. Donc, vous allez calculer ça, les 5%, vous allez mettre ça en deux mois et vous allez mettre ça à la caisse. Donc, à la fin de l'année, donc, l'argent que tout le monde a contribué dans la caisse, on restitue les 250 francs de tout et chacun. Mais les 50 francs restent dans la caisse qui est notre fonds de garantie, qui est pour le fonds social de l'association. Donc, c'est avec ça que nous commandons, que nous payons des petits équipements. C'est avec ça que nous empruntons entre nous en fonds social aussi. Pour, en fait, ensuite le remettre à sa place encore.
Est-ce que vous avez accès facilement aux banques?
Bon, les banques, quand même, c'est très difficile, Nathalie.
Ça, même au Mali?
Pas, même au Mali. Ça, il faut pas. Nous, on ne se focalise pas.
Mais pourtant, vous apportez du résultat.
Parce que quand nous, les banques, ce qu'ils aiment...
Il y a des gros intérêts.
Voilà. Et puis, ils demandent des garanties.
Oui.
Et puis, pas des garanties en TF, mais en titre foncier. En permis d'occuper, pas en permis, mais en titre foncier. Oui. Alors que nous, les femmes, on n'a pas de titre foncier.
C'est toujours
donc
ce problème-là.
C'est pas facile avec les banques. Voilà, ouais. C'est pas facile.
Et quels autres genres d'obstacles vous pouvez rencontrer pour vous développer?
Voilà, les obstacles que nous on a maintenant, c'est des problèmes d'équipement aussi. Parce que quand tu achètes un équipement aujourd'hui, 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'équipement va être un peu vétuste pour vous.
Ah, vraiment?
Parce que votre production va augmenter un tout petit peu, donc ça vous fera beaucoup fatiguer. Et puis l'équipement aussi, ça coûte excessivement cher. Donc, moi quand même, je cours auprès des projets pour pouvoir nous faire connaître, afin de nous aider à avoir des équipements adéquats pour pouvoir travailler.
Là, par exemple, si on devait parler d'équipement en particulier, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit? Quelle machine ou je ne sais pas?
Oui, les machines qu'il faut pour pouvoir transformer nos produits.
Ouais.
Donc, c'est ces équipements qu'on a tout le temps besoin, avec les emballages aussi. On a encore à des problèmes d'emballage aussi.
Vous le faites où? Vous le faites à Ségou, tout ça, l'emballage?
Non, cet emballage-là, moi, je le commande à Berlin.
En Allemagne.
Donc, j'ai mon producteur d'emballage qui est à Berlin. Ça, là, ce sachet que vous voyez là, le producteur, là, il est en France.
Ça serait meilleur marché si vous pouviez le faire sur place.
Voilà. Donc, c'est pas facile. Oui. C'est pas facile. On n'a pas d'emballage adéquat pour nos produits localement au Mali, à nos jours. Donc, les emballages, là, nous les importons. Voilà.
Donc, sans finalement ce système international.
Voilà, ça nous fatigue beaucoup.
Vous n'auriez même pas vos emballages.
Non. Parce que les emballages qui sont là-bas, ces emballages-là, ne sont pas bien. Ils absorbent l'humidité. Oui. Il y a des sachets qui sont confectionnés chez nous au Mali, mais quand vous mettez votre produit là-dedans, ça ne peut pas durer là-dedans. Ça s'affecte. Voilà. Donc, pour avoir des emballages qui renferment les normes internationales, nous faisons appel à des fabricants internationaux.
Donc, ça fait beaucoup de voyages et beaucoup de dépenses.
On commande. Maintenant, là, on part sur Internet. Ça, c'est bien. Mais c'est très coûté. Si nous parvenons à avoir une usine sur place, c'est ce que nous faisons.
Pour faire les emballages.
Ça nous fera énormément plaisir localement.
Ça serait vraiment
Voilà. Oui. Nous avons souligné à notre gouvernement. Donc, ils sont en train de chercher des solutions.
Ah bon?
Avec les différents projets qui sont là-bas, on a beaucoup parlé avec ceci. C'est pas facile, mais un jour, nous arriverons, Inch'Allah. Voilà.
Et donc, si vous deviez parler de l'autonomisation des femmes par rapport à ce projet, par rapport à cette coopérative, cette association, qu'est-ce que vous auriez à dire? Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Vous sentez plus autonome?
On se sent plus autonome. Donc, on fait face à nos différents problèmes quotidiens. Donc, nous soutenons notre famille et nos besoins. Donc, sans pour autant demander nos maris qui sont là, qui sont fatigués.
Et vous souhaitiez, dites-moi si je me trompe, ça aussi je l'ai retrouvé dans la presse, construire un centre pour des formations, des conférences et un lieu de travail. Est-ce que vous avez un lieu de travail particulier où chacun travaille chez soi, dans son coin?
Si, on a une unité de transformation. On se retrouve là-bas.
Elle est à Ségou, l'unité. Et vous avez pu créer votre centre pour des formations, les conférences? J'ai trouvé ça dans la presse.
Non, pour le moment, on n'a pas de centre de formation.
C'est toujours en projet ou...
C'est tout ça dans notre projet.
Quoi d'autre pour terminer? Dites-nous, comment vous vous projetez dans l'avenir?
Bon, nous, ce que nous souhaitons maintenant, c'est d'avoir les moyens pour pouvoir avoir un centre très adéquat. Le petit centre que nous avons, c'est un peu adéquat. Donc, avec les équipements, tu ne peux pas tourner comme tu veux. Tout ça, ça demande des moyens.
Il faut s'agrandir, quoi.
Voilà.
Il faut plus
d'espace. On a fait notre demande à notre mairie et j'espère que le maire, il va changer pour nous dans les jours à venir pour l'association.
Merci beaucoup, Djenaba Cissé. C'était vraiment un grand plaisir de vous avoir avec nous pour Le Monde au Féminin. Un grand merci également à Sims Loumami et à Wagner Robert, à la production et bien sûr un très grand merci à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. À très bientôt. Au revoir.
Merci.
Arrête.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.